Premier couloir, à gauche la cave. Ici on a un petit placard qui devrait être fonctionnel. Au-dessus aussi, encore de l'espace de rangement. Ici, il y a une pièce où on stocke du bordel pour le moment, parce que c'est une pièce qui a dû brûler.
C'est au mois de janvier 2011 que Tristan, Tommy et Charlie, trois jeunes liégeois, décident de s'installer dans une grande maison de la commune de Bressoux à Liège. Ensemble, ils ont décidé de forcer la porte d'une vieille masure abandonnée, recouverte de toiles d'araignées et de poussière, afin d'y habiter. Ils ne sont pas passés par une agence immobilière, n'ont pas de contrat d'habitation ni de bail. Tristan et ses compères ont décidé de vivre en squat dans la plus grande illégalité. Souvent méconnu, incompris et nourri par une foule de rumeurs et de clichés, le phénomène des squats reste un mystère pour certains. Pourtant, sous ce voile de on-dit, ces squatteurs revendiquent un autre art de vivre, une autre manière de s'organiser en société. Leur squat est un squat politique. Fervents défenseurs du droit au logement face au droit de propriété, les squatteurs investissent les logements vides, souvent à l'encontre de leurs propriétaires, pour y vivre sans dépendance financière, refusant ainsi la logique marchande du logement imposée au tout un chacun. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus chez ces squatteurs et les avons côtoyés pour avoir un aperçu de leur mode de vie, entre précarité, illégalité et activisme. Tristan, jeune artiste slammer, évolue depuis longtemps dans ce milieu. Il revient sur les débuts de cette histoire.
Ça a commencé déjà par une association dans un autre squat avec Tommy. On a ouvert quelque chose au mois d'août dernier. Et donc voilà, ça avait bien marché. On s'est fait expulser fin octobre. On avait réessayé d'ouvrir quelque chose même avant notre expulsion. Mais là, on s'est fait expulser en 24 heures. Pas trop violemment, mais quand même avec un bélier et une grosse brigade de policiers, quoi. Après, on s'est retrouvé au mois de novembre. Tommy qui est parti en Hollande chez son copain, moi ici à Liège. Et donc voilà, on s'est dit, on va quand même essayer de trouver un autre lieu, mais on était fatigués, on s'était fait expulser de deux lieux en une semaine. Donc on a laissé un peu reposer, et moi j'ai passé du temps dans ma tente, et de là, j'ai cherché des lieux, et il se fait que j'ai trouvé ce lieu assez rapidement. On essaye de repérer à différents signes, quoi, notamment les toiles d'araignée, et là il y en avait beaucoup. sur les portes, parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas été ouvertes depuis des années en général, si tu vois, toile d'araignée depuis au moins une année ou un bon bout de temps. On a lancé des visites, on a essayé de le visiter au mois de décembre, et puis petit à petit, bon, on a pris notre temps, mais au bout d'un moment, on est arrivé à une échéance où on s'est donné une date, où le bâtiment nous convenait, et où on s'est lancé dans l'aventure, quoi. Et ça, c'était le 22 janvier.
Pour Tristan, le squat n'est pas seulement une manière de vivre. C'est une action politique, une manière de lutter contre le mal-logement et l'exclusion. Son ennemi, la propriété privée. Sa solution, la réquisition des bâtiments vides par les citoyens eux-mêmes.
Quand quelqu'un jette quelque chose à la rue, que n'importe qui le ramasse, en général, ne pose pas de problème. Je vois pas en quoi... Quand on est à la rue, je passais beaucoup de temps dans une tente cet hiver, avec l'humidité qu'il y a ici, le froid qu'il a fait cet hiver aussi. Je trouve que l'avantage que ça nous rapporte est tellement minime à côté du préjudice fait aux propriétaires, qui pour moi se base uniquement sur le principe de propriété privée. Ce bâtiment est abandonné depuis, je pense, franchement 5 ans, quoi. Et donc c'est un bâtiment où il ne se passe rien, qui est en train de moisir. Nous, on rentre dedans, on le nettoie, on essaye de l'aménager. Concrètement, au-delà du principe de propriété privée, je pense qu'il n'y a que des avantages pour le propriétaire. Maintenant, forcément... Ça implique de nous faire confiance Et on sait que c'est pas quelque chose forcément de facile dans nos sociétés. Donc voilà, nous on entretient, on fait vivre le lieu et si le propriétaire n'en fait rien et qu'on trouve on peut trouver des accords, qu'au moment où il en fait quelque chose, on le quitte, voilà, ça c'est tout à fait envisageable, mais en général c'est pas le cas malheureusement.
Le squat, comme la réquisition de logements vides, ne date pas d'hier. C'est un combat qui vit depuis plusieurs centaines d'années. Le précurseur du squat, Gerard Winstanley, avait déjà initié ce mouvement dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Accompagné de ses partisans, les Diggers, il revendiquait l'occupation des terrains appartenant aux lords anglais et leur expropriation, afin que le peuple puisse y faire pousser ses cultures librement. Le mouvement des squats continuera alors dans la France du début du XXe siècle, sous la houlette de l'anarchiste Georges Cochon et du syndicat national des locataires. Il luttera alors contre les expulsions et installera des campements de fortune dans Paris pour les sans-logis. Prenant plusieurs formes, plusieurs manières de s'étendre, le mouvement des squats se propage dans le monde entier, notamment dans les milieux anarchistes et libertaires, ainsi que dans les associations pour le droit au logement. Journaliste indépendant à Liège, Pierre Morel s'intéresse aux squats depuis plusieurs années. Il a pu constater par lui-même la résurgence d'un vrai mouvement politique dans sa ville.
En fait, ça a commencé il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, mais avec un squat appelé la chauve-souris. Ces gens s'étaient installés dans un bâtiment abandonné qui se trouve rue Chauve-souris à Liège, et donc d'où le nom. Ils m'avaient invité à une espèce de conférence de presse à laquelle je suis allé, il y avait d'ailleurs d'autres journalistes présents, pour nous parler de la raison de leur investissement dans le lieu, pourquoi, comment, quels étaient leurs rapports déjà difficiles avec le propriétaire. Et donc voilà, moi je suis allé là vraiment en sachant rien et par curiosité journalistique. Et j'ai trouvé ça assez intéressant d'emblée. Et donc je me suis intéressé au sujet et j'ai vraiment suivi, parce que après, les gens de la chauve-souris ont vraiment mené tout un combat très politique d'ailleurs autour du droit au logement. Et donc moi j'ai pu voir qu'il y avait là-bas en effet deux braves vieilles dames en train de plier les vêtements dans un magasin de vêtements où on faisait du troc, qu'ils avaient un espèce de centre de documentation, qu'ils faisaient de la cuisine bio, ils avaient transformé, il y avait une espèce de décharge illégale devant le bâtiment qu'ils avaient transformé en petit potager. Bon, on pouvait voir qu'il y avait là-bas vraiment une activité, qui était à la fois politisée, mais aussi en effet sociale, que c'était occupé par des gens sérieux, je vais dire, c'est-à-dire clairement des gens qui n'étaient pas là pour créer des problèmes, mais au contraire pour entretenir le bâtiment avec un discours.
Organisés et porteurs d'un vrai message, les squatteurs liégeois se placent sur l'échiquier politique afin de faire vivre leurs revendications.
Visiblement, à Liège, c'est en effet redevenu un mouvement sous l'impulsion première des gens de la chauve-souris, puisque quand ils ont fini par se faire expulser, ils se sont séparés en deux groupes qui sont allés créer deux nouveaux squats. Et toujours, puisque moi je rencontre assez régulièrement ces gens, c'est toujours en effet avec un discours, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour... Pour pas mal d'entre eux, ils pourraient ne pas squatter. Certains ont des revenus, certains travaillent, d'autres touchent du chômage. Et c'est un choix. Donc ce mouvement du squat par choix, en effet, il s'organise à Liège, il s'est recréé. Bon, les gens me disent que ça existait déjà il y a 10 ou 20 ans. Mais je crois que désormais, c'est un véritable mouvement avec des gens qui se parlent, qui se connaissent, qui se fréquentent. Et avec vraiment ce discours qui tourne autour du droit au logement, c'est-à-dire il y a des endroits inoccupés dans la ville, pourquoi est-ce que nous on n'irait pas occuper ces endroits puisque non seulement on ne dégrade pas le bien mais au contraire on l'entretient. Donc oui, moi je sens l'émergence d'un mouvement là qui revendique de pouvoir occuper des lieux abandonnés pour, vraiment avec un discours politique pour montrer à la société c'est quand même étrange qu'on manque de logements sociaux par exemple alors qu'il y a des logements libres partout.
Mais les squatteurs se heurtent très souvent aux propriétaires, peu enclins à se faire déposséder de leurs biens. Olivier Hamal, vice-président du syndicat national des propriétaires, et ancien conseiller communal à Liège.
La position est tout à fait, je dirais, négative, tout simplement parce que nous vivons dans un pays démocratique avec une constitution, des libertés fondamentales qui sont garanties, que ce soit d'une part, il est vrai, le droit au logement, et d'autre part, le droit de propriété. Et que dès lors, c'est au propriétaire à décider évidemment de ce qu'ils veulent faire de leur bien, que celui-ci soit, je dirais, occupé ou non. Mais à côté de cela, les pouvoirs publics ont développé ces dernières années une série de mesures visant à lutter contre l'inoccupation et l'abandon, mais tout ça dans un cadre légal strict. Et il n'appartient pas, je dirais, à des personnes individuellement de faire justice elle-même, que ce soit à des fins strictement personnelles ou même collectives. Nous sommes dans un état de droit. Tout bien, je dirais, à un coût, ne fût-ce que dans les charges d'entretien d'un propriétaire. Maintenant, à côté de ça, je répète, il y a d'autres formules qui est de prendre en location, je dirais, des biens qui existent ou de solliciter le propriétaire pour voir s'il n'accepterait pas, sur base de formules à déterminer, une location à des conditions à préciser. Mais sur le principe même du squat, occupation gratuite, par on ne sait pas très bien qui, comment, dans quelles conditions et autres modalités, je pense que là, on doit dire non.
Ces relations difficiles avec les propriétaires, Tristan et ses co-squatteurs en ont fait les frais. Si généralement, ceux-ci se contentent de faire expulser leurs locataires indésirables par voie judiciaire, certains vont plus loin.
Avec le propriétaire, ça s'est très mal passé pour le moment, dans la mesure où il est complètement fermé, enfin c'est un couple de propriétaires et ils sont complètement fermés. Ils sont venus la première fois 4-5 jours après qu'on ait ouvert. Ils ont proféré des menaces de nous emmurer, de jeter de l'ammoniac. Ils sont revenus 2 jours plus tard. Là, il y a eu à nouveau des menaces. Il a retiré les boîtes aux lettres et la sonnette qui marchait en bas, sur la façade extérieure. Il a essayé de me les lancer à la tête, les boîtes aux lettres, une bonne dizaine de fois, et avec la sonnette, il a cassé un carreau. Après, il est revenu le lendemain mettre à exécution ses menaces, et il nous a emmurés. Il a vissé des planches avec beaucoup de vis quand même, enfin, il s'y est bien pris pour nous enfermer à l'intérieur. Et puis, on a été tranquille un petit temps, et puis après, on nous a coupé successivement l'eau, puis l'électricité, puis le propriétaire a jeté une bouteille d'ammoniac par un soupirail à la cave. La cave était irrespirable pendant quelques jours. Bon, ça n'a pas porté trop de dommages, mais ça a quand même causé des embêtements et c'est de l'intimidation, clairement. Et voilà, et là, on a aussi eu un contact via son avocat qui a dit qu'il lancerait les procédures de justice si on n'était pas parti plus ou moins maintenant.
Ce conflit entre squatteurs et propriétaires repose sur l'opposition du droit de propriété et du droit au logement. Chacun revendique ses droits et trouver un équilibre entre les deux semble peu probable. Nicolas Bernard, professeur de droit aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et spécialiste dans la question du logement, nous explique les origines du droit de propriété.
Notre conception juridique se base sur le Code civil de 1804 qui est lui-même le reflet de la Révolution française de 1789. Je m'explique. Au moment de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a fait de la propriété un droit inviolable et sacré. Elle a mis la propriété au même rang que la liberté, la résistance à l'oppression et la sécurité. C'est dire si la propriété est revêtue d'un caractère absolu. Et le Code civil reflète fidèlement cette conception un peu absolutiste. Encore qu'avec une nuance, je m'explique, pour le Code civil, article 544, on dit que la propriété a le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, moyennant évidemment le respect des règlements qui peuvent affecter éventuellement la relation avec sa propriété. Mais donc, globalement, le Code civil reflète cette conception absolutiste et on est toujours avec ce même article du Code civil qui n'a pas été modifié en plus de 200 ans.
En plus d'être inscrit dans la loi, la propriété dans nos sociétés a un caractère hautement symbolique.
Au niveau philosophique, la propriété, ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essence même de l'homme, qui est déjà propriétaire de son corps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Et par ailleurs, l'homme a besoin d'avoir une maîtrise sur l'environnement, sur les choses qui l'entourent. Et donc, la propriété est intimement liée à l'être. Mais au fil des années, on s'est rendu compte que sur le plan philosophique, cette propriété devait peut-être être conçue dans un sens plus social et être en arbitrage avec d'autres préoccupations, comme par exemple le logement. Le droit de propriété de l'un ne peut pas rendre impossible le logement de l'autre, et donc il y a progressivement un arbitrage qui est fait entre ces deux prérogatives, parce que le logement, sur le plan philosophique, est aussi une notion tout à fait importante. L'homme a le besoin d'avoir un toit, d'avoir un abri pour développer sa propre identité et développer son noyau familial. C'est sur le plan philosophique une notion qui est amenée à entrer en dialogue avec la propriété.
Le droit de propriété, c'est donc trouver un adversaire, le droit au logement.
La propriété, depuis 20-30 ans, subit en quelque sorte des assauts en règle émanant de prérogatives sociales comme le droit au logement. Et je crois qu'on est vraiment à un nœud ici dans la conciliation entre ces droits fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'en 1993, on a consacré dans la Constitution le droit au logement. Et donc on ne peut plus dire que la propriété est seule sur son piédestal, elle a comme vis-à-vis direct le droit constitutionnel au logement, ce qui ne va pas sans répercussions très importantes. Depuis l'insertion de l'article 23 dans la Constitution, on voit que le législateur a pris cette mission au sérieux et a adopté une série de lois qui, en favorisant le droit au logement, aboutissent à rogner les prérogatives du propriétaire.
Le droit de propriété n'est donc plus le droit absolu qu'il était auparavant. La problématique du logement est dorénavant prise en compte.
Le législateur a multiplié les mesures pour traquer l'inoccupation et réprimer le propriétaire. Et ces mesures ont été entreprises devant la Cour constitutionnelle par les propriétaires qui invoquaient justement l'atteinte au droit de propriété. Alors, dans leur grande majorité, ces mesures ont reçu le blanc-seing de la part de la Cour constitutionnelle. Et le dernier arrêt en date, c'est l'arrêt du 29 juillet 2010, qui a trait à une ordonnance bruxelloise qui imposait une amende administrative aux propriétaires de logements vides. Et la Cour constitutionnelle elle-même, donc la plus haute juridiction du pays en cette matière, la Cour n'y a pas vu une atteinte injustifiée, disproportionnée aux droits de propriété. C'est quelque chose qui aurait été impensable avant l'article 23 de la Constitution.
Cependant, même si des mesures existent pour réduire le nombre de logements vides, dans les faits, le droit de propriété est souvent vainqueur devant les tribunaux. Pour des squatteurs, aucun recours n'est possible et aucune défense ne pourra à ce jour les faire gagner. Pour David Prel, membre de l'association Solidarité Nouvelle et du DAL, Association pour le droit au logement, les pouvoirs publics devraient prendre le problème à bras-le-corps.
On ne va pas jusqu'au bout de l'affirmation du droit au logement. On n'en détermine pas nécessairement les contours concrets de son application quand on l'inscrit dans la Constitution. Et dans ce sens-là que je parlais de légitimité, c'est une question d'éthique et de justice sociale, effectivement. Et de ce point de vue-là, la balance n'est pas seulement entre le droit de propriété de pouvoir faire n'importe quoi, y compris spéculer sur son bien, par rapport à une demande sociale qui est extrêmement importante, à laquelle on ne sait pas répondre et qui constitue une injustice flagrante. C'est un peu une approche parfois trop pragmatique et un peu fataliste d'un point de vue politique. On ne sait faire que ce qu'on peut et ça se je dis souvent, on a un peu une tendance de tous les acteurs à accepter le principe qu'on gère de la pénurie, quoi. Quand on gère de la pénurie, on devient exigeant par rapport à ceux à qui on va donner accès au logement, on peut devenir sélectif, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est une dérive dans la manière d'aborder la problématique dans son ensemble. C'est bien de pouvoir la repositionner. Mais voilà, c'est pas évident de regarder la réalité en face.
Bien que précaire et instable, le squat peut alors, dans ces cas-là, être une manière de tirer la sonnette d'alarme et d'attirer l'attention sur le problème du mal-logement.
Dans un contexte de crise du logement, avec des pouvoirs publics qui n'assument pas les conséquences de cette crise, qui ne sont pas en capacité d'apporter des réponses satisfaisantes pour tout le monde, c'est extrêmement intéressant, dynamique, que des habitants prennent leur sort en main, essaient de construire eux-mêmes des solutions. Et la question de la légitimité, c'est illégal d'occuper, mais c'est aussi considéré comme un abus de droit que de laisser pourrir des bâtiments en n'en faisant rien. Alors, parfois, les situations sont plus complexes, hein, c'est pas toujours une question de vouloir spéculer ou laisser traîner des bâtiments, mais c'est intéressant de contrebalancer l'abus de droit de propriété par le droit d'usage, hein, pouvoir effectivement occuper pour développer des solutions de logement, puis aussi d'autres aspects, des projets contre-culturels, etc. Redonner de la vie dans les quartiers, redonner d'autres fonctions aussi, pouvoir dire, c'est un lieu assez central dans un quartier de vie. Est-ce que c'est vraiment aussi intéressant pour le quartier d'y développer un hôtel 3 étoiles ou est-ce qu'y développer de l'habitat avec des activités culturelles ouvertes sur le quartier, c'est pas plus riche pour les habitants, quoi.
Car le squat ne se limite pas seulement à promouvoir le droit au logement. Il est créateur d'une vie culturelle et sociale dans la ville et dans les quartiers. Dans nombre de squats, les habitants développent souvent des activités comme l'organisation de concerts, d'expositions artistiques, la mise en place de restaurants ouverts à tous ou de magasins de troc. À Liège, Tristan et ses co-squatteurs ne dérogent pas à la règle. Ils ont installé chez eux un sleeping pour faire dormir convenablement les voyageurs et autres gens de passage et organisent des soirées culturelles avec au programme concerts et projections de films. Dans les caves de la maison, ils ont installé une salle de répétition prête à accueillir tous ceux qui veulent s'en servir.
Attention, il y a juste un câble, une rallonge. Ah d'ailleurs, je vais pouvoir éteindre ça. À mon avis, ça devrait le faire maintenant. Ici, on a tous nos compteurs aussi, donc ça c'est pratique. Dans le squat précédent, on devait passer par un voisin pour accéder au compteur, ce qui n'était pas toujours facile. Et donc ce serait ici, quoi. Une cave, pour l'instant, c'est dans cet état-là. A priori, demain ou quoi, on va mettre de la moquette au sol, un peu de tapis plein qu'il y avait aux créations à côté. Il y a un peu des installations électriques déjà, donc ça, c'est super chouette. Et les murs peut-être peindre un peu. Je veux dire, il y a encore un peu de boulot, demain, a priori, je ramène les amplis, le synthé.
Cette démarche témoigne d'une vraie volonté de créer une vie de quartier. Désireux de se faire connaître par leurs voisins, les squatteurs ne se cachent pas et font état de leur entreprise auprès des riverains.
Nous, on essaie de s'ancrer ici au milieu des gens et en général, je trouve que un point très positif des squats, dans mon expérience actuelle, c'est que quand on fait ça honnêtement, visiblement, en général, les gens sont contents qu'on soit là. Il y a toujours des gens qui n'apprécient pas, mais en général, c'est quelque chose qui apporte de la vie au quartier. Et nous, le but, c'est d'être ouvert. Donc, on est prêt à discuter. Et voilà, ici, on est dans un quartier un peu plus populaire par rapport au reste de Liège. C'est loin d'être un ghetto. C'est super, c'est super chaleureux. Et le contact avec les voisins, moi, j'aime beaucoup, quoi. Et c'est en général quelque chose qui fait chaud au cœur.
Akar, commerçant dans une épicerie de quartier et voisin des squatteurs, les a déjà rencontrés. Même si pour lui le squat reste encore une notion obscure, il approuve leur démarche.
Moi je pense, je ne le connais pas personnellement, mais il vient des fois acheter au magasin où je travaille. Et moi, pour ma part, moi je ne suis pas contre les gens qui habitent des maisons illégalement, on va dire. Parce que tant qu'ils ne font pas de mal aux personnes qui les entourent ou dans la maison, moi ça ne me dérangerait pas. Et qu'ils soient tranquilles, moi je vois pas de convénient pour qu'ils n'habitent pas là. Mais c'est vrai, si le propriétaire ne veut plus, il faut qu'eux aussi, par eux-mêmes, par leur initiative, qu'ils quittent les lieux pour pas avoir des embrouilles. Parce que le quartier maintenant, il est tranquille, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ils viennent des fois au magasin et on n'a jamais eu de problème avec eux. C'est des gens corrects, honnêtes.
S'il comprend la gêne occasionnée pour les propriétaires, il reste néanmoins solidaire avec l'action des squatteurs.
Je ne suis pas propriétaire, mais je veux dire, ils ont besoin aussi d'un abri maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il fait chaud, mais des fois aussi, il fait froid. On les comprend aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens. Peut-être qu'ils n'ont pas de revenus du CPS au chômage. Mais je trouve ça normal. Mais c'est vrai aussi, pour le propriétaire, ce n'est pas très agréable aussi qu'ils ne reçoivent pas un loyer par mois. Mais ils sont obligés. Moi, je crois ça, que c'est bon. Moi, ça ne me dérangerait pas. Moi, ils sont payés aider les gens. Ça ne dérangerait pas. Là, pour l'instant, on n'a encore personne s'est révolté, manifesté, comme quoi ils faisaient qu'il y avait trop de bruit ou pas. C'est des personnes discrètes, on va dire. Ils viennent ici acheter, ils sont respectueux, ils disent bonjour, au revoir. Des fois, quand ils viennent au magasin, sinon, on n'a jamais eu de problème pour l'instant. De ma part, il n'y a eu jamais de problème pour l'instant.
Si la gratuité du logement peut sembler attrayante, les conditions de vie en squat peuvent en revanche être difficiles et éprouvantes. En plus de vivre dans des logements souvent sales et poussiéreux, les squatteurs doivent bien souvent se passer du confort moderne. Parfois sans eau, sans électricité et sans chauffage, ils doivent s'habituer à ce mode de vie peu orthodoxe. Pourtant, pour Tristan, cette vie rude et inconfortable est un choix.
Ça peut rebuter. Maintenant, pour moi, ça c'est vraiment un choix de vie que j'avais même fait. En fait, avant même d'habiter en squat... on a mis un peu de chauffage d'ailleurs ici cet hiver et ça faisait plusieurs années que j'en avais pas eu l'hiver. Et ça, c'est vraiment un choix de vie de consommer moins. Et voilà, ça a des bons, des mauvais côtés. Des fois, c'est dur, des fois, tu râles, t'es fatigué, t'as pas envie de perdre de l'énergie aussi à lutter contre le froid, contre ça, et ça te pèse vraiment et tu râles, et voilà. Mais ça a le bon côté que petit à petit, on s'habitue de plus en plus aux conditions et qu'on les subit de moins en moins, en fait, avec le temps. Et donc voilà, pour moi, c'est un autre mode de vie, mais je veux dire, ça aussi, c'est bon côté, quoi.
Selon Tristan, les difficultés de la vie en squat ne sont rien comparées aux bénéfices qu'il en retire. Un mode de vie qui, selon lui, lui serait interdit s'il n'était que simple locataire.
Il y a une certaine autonomie. Et puis, il n'y a rien à dire. Il y a un côté financier qui est important. Voilà, moi, je ne gagne pas vraiment d'argent avec ce que je fais. Je ne cherche pas forcément à en gagner beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de construire mon projet en dehors d'une dépendance financière. Du coup, forcément, il faut faire des économies quelque part et réussir à vivre avec un minimum de sous et vivre décemment, je veux dire, parce que aussi, je pense que c'est dur au début. C'est dur parce qu'il y a la précarité, le fait qu'on puisse être expulsé vite et qu'on doive changer. Mais à côté de ça, une fois qu'on est installé, on a souvent plus d'espace et de confort. Bon, des fois, on laisse trop de gens rentrer dans les squats et là, ça va plus, il y a des conflits. Mais sinon on vit très bien, quoi. J'aurais quand même l'opportunité de faire de la musique dans ma cave, d'avoir une chambre, un salon, une grande cuisine. Ça, c'est quand même quelque chose d'appréciable, quoi.
La bouilloire est sur le feu de la cuisinière. La bouilloire bout, l'eau frémit dans le café de la cafetière. Je vais vite chercher du pain à la boulangerie. La rue réveille mes cheveux endormis. Il est tôt.
Mais en fin de compte, cette vie de squatteur reste bien évidemment illégale. Si une occupation peut dans le meilleur des cas durer quelques mois, les squatteurs se font au final expulser et doivent partir en quête d'un nouveau logement. Directeur opérationnel de la police de Liège en charge de l'ordre public, Dominique Bailly connaît bien le phénomène des squats. C'est lui qui, depuis plusieurs années, gère cette situation qui, bien qu'étant marginale, peut occasionner de nombreux problèmes. Loin du tout répressif, il essaye d'établir un véritable dialogue.
Lorsque nous sommes informés de la présence d'un squat sur le territoire de la ville de Liège, nous essayons d'entrer en contact avec les occupants de l'immeuble. J'ai des collaborateurs avec qui je travaille régulièrement, qui connaissent relativement bien le milieu des squatteurs et qui sont habitués à ces contacts humains et qui tentent d'intervenir en première ligne pour essayer de décrisper la situation et pour essayer d'avoir un maximum de renseignements, de voir un petit peu d'où ils viennent, si nous les connaissons.
Même si à Liège, les relations entre les forces de police et les squatteurs restent cordiales, ils devront tôt ou tard s'incliner devant la loi.
La loi, elle est applicable sur tout le territoire de la Belgique en matière de squat, et aussi, ben, on doit se conformer, évidemment, s'il y a une décision de la justice dans ce domaine, ben, c'est de pouvoir veiller à son application et de pouvoir lever tous les obstacles qui permettraient, qui seraient devant l'huissier de justice. Mais nous avons également un contact privilégié aussi avec l'autorité administrative, c'est-à-dire avec le bourgmestre, qui est très sensible, hein, qui peuvent être très sensibles. En général, les bourgmestres sont très sensibles à cette problématique de relogement des occupants.
À Liège, les pouvoirs publics se sentent effectivement concernés par la problématique des squats. Tolérés plus qu'autorisés, ils font l'objet d'un dialogue constant et d'un équilibre difficile entre l'affirmation du droit au logement et l'application de la loi. Marc Minet, du cabinet du bourgmestre.
Nous sommes évidemment légalistes, c'est-à-dire que nous inscrivons dans la logique qui est la nôtre en termes de droit par rapport à la problématique des squats. Et dès lors, quand il y a un jugement, quand le jugement est définitif, il est clair que nos services de police sont tenus d'intervenir et de faire exécuter le jugement. Néanmoins, nous estimons en tout cas que, comme dans d'autres matières, qu'il y a une manière de faire qui permet aussi d'éviter des incidents. Et donc, notre manière de faire est plutôt une manière ouverte et tolérante par rapport à ça. Pour le reste, nous sommes sensibilisés à la problématique des squats. Et donc, depuis une dizaine d'années maintenant, nous développons avec eux un rapport, je dirais, qui est à la fois fait de chacun est évidemment un rôle à jouer, mais nous essayons de le faire dans la tolérance et la compréhension mutuelle.
Si des aménagements peuvent être faits et la pratique tolérée à demi-mot, ces locataires indésirables sont amenés à devoir faire face aux expulsions, au rapport houleux avec les propriétaires et à la loi. Cependant, toutes ces entraves ne rebutent pas Tristan. Bien déterminé à adopter ce mode de vie alternatif, il défend son action.
Ok, on paye rien, mais on y met une énergie forcément 10 fois plus conséquente que quelqu'un qui est locataire, qui doit avoir déjà a priori un logement en état quand il loue. Nous voilà, on est des fois expulsés tous les 3 mois, des fois même moins. Et à chaque fois, on rénove les bâtiments, on doit des fois vraiment enlever beaucoup de crasse. Ici, c'était assez sale. Et voilà, c'est pas parce qu'on... Enfin voilà, nous, on préfère donner notre temps pour avoir un logement le plus acceptable possible que donner de l'argent. Mais je veux dire, c'est pas si facile que les gens peuvent le croire aussi, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas youhou, on rentre dans une maison et maintenant on peut vivre comme des princes, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout, et ça demande beaucoup de démarches aussi. On a dû se quand même parlementer avec les entreprises d'eau, d'électricité, pour qu'ils reviennent mettre les compteurs. Des fois, on est sans électricité. Enfin, voilà. Moi, je crois que si des gens pensent qu'on usurpe quoi que ce soit et qu'on profite, qu'ils fassent comme nous, parce qu'il y a plein d'autres bâtiments vides, quoi.
Illégal depuis des centaines d'années, le squat continue pourtant de perdurer. Malgré la précarité, les conditions de vie difficiles et le changement perpétuel d'habitation, des groupes de gens décident d'adopter ce mode de vie. Si leurs actions restent marginales et mal comprises, ils ne se découragent pas pour autant. Au début du mois d'avril 2011, la procédure d'expulsion a été entamée pour Tristan et ses co-squatteurs. Rien ne nous dit dans combien de temps ils seront expulsés, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Pourtant, cette perspective ne les décourage pas. Bien décidés à continuer leur combat, ils trouveront un nouvel endroit abandonné à squatter et un nouveau quartier où faire résonner leur message.
Coucou les filous! Moi je suis en pleine expédition nocturne. Ça vous dirait d'explorer des maisons abandonnées? Parce que j'en connais une nouvelle.